à toutes et à tous, bienvenue dans la vie de l'esprit. Christophe Jubien pour vous accueillir. J'ai le grand plaisir de reprendre le cours de ma conversation avec Catherine Despeux. Catherine Despeux est sinologue, elle est traductrice, elle est spécialiste du taoïsme et du bouddhisme Chan. Elle a écrit plusieurs livres et dernièrement, elle a traduit pour la collection Rivage Poche Petite Bibliothèque, un anonyme chinois, le livre de la contemplation intérieure et autres textes taoïstes. Catherine Despeux a préfacé également cet ouvrage, c'est une préface qui est très très éclairante. Nous avons donc évoqué ensemble le taoïsme il y a 4 semaines avec Catherine Despeux. Nous reprenons le cours de la conversation où nous l'avions laissé il y a 4 semaines. Alors à présent, chère Catherine Despeux, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, parce que vous n'êtes pas qu'une lettrée spécialiste du taoïsme et du bouddhisme Chan, vous êtes une pratiquante de la voie depuis la fin des années 60. Vous avez d'abord étudié auprès du grand Carlfried Graf Durkheim, et sitôt vos études terminées, vous êtes partie à Taïwan, vous avez rencontré celui qui est devenu votre maître, Nan Huaijin, un lettré qui faisait le syncrétisme des trois grands courants spirituels de la Chine, c'est-à-dire le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage, et puis de ses prémices finalement, et puis de la rencontre de ce maître, et aussi de son enseignement bien sûr?
Oui, alors je n'oserais pas dire que je suis une pratiquante. En fait, je suis quelqu'un qui est très... qui a une curiosité depuis que je suis toute petite et qui cherche, je me pose beaucoup de questions, et vous connaissez la définition du chercheur. Le chercheur, c'est celui qui cherche et ne trouve rien. Et en ce sens-là, je suis peut-être taoïste, parce qu'effectivement, on ne sait pas très bien où l'on va, mais bon, je cherche, et j'ai cherché un peu dans toutes les traditions, même si j'ai été victime, comme beaucoup de personnes, de l'exotisme de l'Extrême-Orient, et que toutes ces traditions me semblaient extraordinaires. Et en fait, je les remercie parce qu'elles m'ont fait découvrir mes propres traditions. Et je me suis autant nourrie des philosophes, des philosophes grecs, latins, ou de mystiques, ou de penseurs chrétiens. Que je remercie tous. Et donc j'ai commencé effectivement cette quête par, c'était l'époque, à ce moment-là, dans les années 70, même avant, dans les années 60, c'était la mode du bouddhisme zen. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Carlfried von Durkheim, et que j'ai passé plusieurs séjours chez lui dans son merveilleux centre. Et je lui dois d'ailleurs beaucoup, puisque c'est lui qui m'a incité à partir en Extrême-Orient, puisque il avait très bien senti à quel point la Chine et sa culture étaient quelque chose d'important pour moi. Et après cela, donc j'ai fini mes études en 1967. Et comme c'était la révolution culturelle, il n'était pas question pour moi d'aller en Chine, puisqu'elle était fermée aux étudiants. Donc je suis allée à Taïwan, où toujours dans mes recherches, un petit peu dans tous les domaines, je suis tombée, peut-être après un an de séjour, sur Nan Huaijin, qui est, on pourrait dire, un lettré à l'ancienne. C'est pour cela qu'en bon lettré chinois, il a été formé dans le confucianisme et dans les classiques du confucianisme qui sont la base de la culture. Ensuite, il a un parcours très atypique. Ensuite, il a fait une école d'arts martiaux. Puis, il a été dans une école de formation militaire qui était à Chengdu, qui dépendait de Chiang Kai-shek. Et tout au long de ce voyage, puisque c'était à l'époque le chaos en Chine avec la guerre sino-japonaise, la guerre entre les communistes et les partisans des Kuomintang. Donc pendant plusieurs années, il a parcouru la Chine dans ce chaos, tout en essayant à chaque fois de chercher, lui aussi, on peut dire qu'il était très curieux, plus que moi certainement, et il rencontrait à chaque fois des maîtres, soit des devins, des maîtres taoïstes, de grands lettrés, voilà, et c'est comme ça que petit à petit, il a acquis on peut dire une connaissance à la fois livresque et pratique immense, un petit peu dans tous les domaines, et que c'est quelqu'un qui, à mon sens, avait vraiment réalisé, je dirais pas le tas, mais qui, par sa présence, par son comportement, était un maître. C'est comme ça d'ailleurs qu'il voulait qu'on l'appelle. On l'appelait professeur, on l'appelait maître. Il voulait absolument pas, enfin maître en tant qu'enseignant éducateur. Il voulait absolument pas. Il n'a jamais voulu construire une école, ni avoir de successeur, ni s'inscrire dans un mouvement religieux. Alors, il a quand même, il aurait eu l'éveil sous la houlette d'un maître Chan laïque qui était à Chengdu. C'est la seule référence officielle qu'il fait à ses pratiques, disons, philosophiques et religieuses. Après cela, il a passé son temps à vivre comme les autres, à avoir des métiers différents, enseigner, être commerçant, jusqu'à ce qu'il puisse s'installer à Taïwan temporairement pour, à partir des années 2000, revenir en Chine populaire. Et donc, son enseignement était à la fois un enseignement fondé sur les textes de ces trois traditions. Il a commenté tous les classiques confucéens. Il a commenté beaucoup de textes, soit du bouddhisme Chan, soit du bouddhisme en général, et des textes taoïstes, dont deux des textes que j'ai traduits donc sous ce titre, le livre La contemplation intérieure. Et il s'adaptait en fait aux individus qu'il avait devant lui. C'est donc moi j'y allais régulièrement tous les 2 ans. À partir du moment où j'ai travaillé, je passais au moins un mois auprès de lui, donc à vivre chez lui. Et je voyais donc comment il fonctionnait et comment des personnes de toute obédience, des chrétiens, j'ai vu chez lui des moniales chrétiennes chinoises venir lui demander des conseils, d'autant que c'était quelqu'un qui connaissait aussi parfaitement la médecine chinoise et qui soignait les gens. J'ai vu aussi des gens qui étaient à la limite disons, pas des loubards, mais enfin, qui n'étaient pas forcément très recommandables. Donc voilà, il était accessible, non pas à tout le monde, mais aux personnes qu'il considérait comme étant susceptibles d'être intéressées par cette démarche de quête intérieure, qui pour lui était l'essentiel. Tout le reste n'est que fioriture, et il n'y avait que ça qui comptait. Et ce que je lui dois le plus, je pense, c'est que c'est un maître qui m'a toujours envoyé à moi-même. C'est-à-dire jamais il n'a dit ce que je dis, c'est la réalité, il n'y a que ça. Il m'a donné les outils, les moyens pour que justement je puisse continuer cette quête, aller plus loin et comprendre d'ailleurs parmi les dernières instructions que j'ai eu avant sa mort, qui m'ont paniqué d'ailleurs. Il m'a dit maintenant, il faudrait que tu cherches le moyen de cultiver, de chercher sans chercher. Et à partir du moment où il m'a dit ça, j'ai voulu me rattacher à toutes sortes de méthodes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Comment faire? Et puis progressivement, bon, j'ai compris et j'essaye d'intégrer cela dans une alternance qui est tout à fait taoïste là pour le coup, qui est une alternance entre le yin et le yang, entre le faire et le laisser faire, entre les efforts et les non-efforts, de manière à trouver justement l'équilibre entre les deux et à ne pas privilégier l'un par rapport à l'autre.
Ouais. Alors, que vous a-t-il enseigné? Parce que, alors, on le disait hein, précédemment, en Occident, on a tendance parfois à opposer taoïsme populaire avec son panthéon de dieux, ses pratiques, j'ose pas dire magiques, mais plutôt les pratiques yogiques. On l'oppose au taoïsme philosophique de Chuang Tzu. Est-ce que l'enseignement de votre maître Nan Huaijin était plutôt justement yogique ou philosophique, ou les deux peut-être, hein?
Eh ben, il y avait tout.
Il y avait tout.
Il y avait tout. Déjà, d'une part, parce que dans le Laozi et dans le Zhuangzi, il y a des passages qui correspondent des exercices yogiques que l'on sait mieux déchiffrer maintenant parce que ils sont exprimés sous forme de symboles et métaphores. Mais grâce justement à la façon dont les taoïstes religieux, entre guillemets, interprètent ces textes, on sait qu'il y a des exercices derrière cela. Même des exercices de respiration, des exercices yogiques. Alors c'est vrai que on oppose taoïsme religieux et taoïsme philosophique. Ils sont différents, c'est vrai, mais là aussi il y a une façon de les interpréter. Par exemple, le rituel, qui est très présent dans le taoïsme religieux, eh bien peut être interprété de différentes manières. Pour quelqu'un de la campagne qui va assister à un rituel ou qui va faire un rituel pour le salut de ses morts ou pour la guérison d'un proche, ça va avoir une signification particulière. Pour celui qui fait un rituel ou qui le connaît un peu, tout ce rituel est un travail de quête intérieure qui va se faire à travers des images, mais où là on touche directement au sacré et ce rituel ne sera efficace que si celui qui le, que si l'officiant a lui-même développé une certaine qualité intérieure. Donc on peut pas vraiment les opposer.
Oui, tout dépend du
Voilà.
niveau auquel on le vit et auquel on l'aborde, c'est ça? Un peu.
C'est ça,
Ouais.
voilà. Alors bon, bah, il enseignait beaucoup. Le taoïsme dit tous nos maux proviennent de notre corps. C'est parce que nous avons un corps que nous avons tous nos maux. Nous sommes sans arrêt préoccupés par notre corps. Il faut le nourrir, il faut qu'il dorme. Il a besoin de sexualité. Il faut en prendre soin, sinon on tombe malade. Donc, pour les taoïstes, il ne faut pas mettre le corps de côté, mais il faut résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, il faut comprendre que matière et esprit, c'est la même chose. Là encore, on ne les oppose pas, mais ils sont liés. C'est tout simplement un degré de visibilité, un degré de lourdeur, un degré d'opacité qui va faire la différence entre les deux. Mais tout cela, c'est le tas. Tout cela participe de la vie. Donc, il faut s'occuper de son corps. Et il y a donc tout cet arsenal que maintenant on appelle le qigong, qui est très à la mode chez nous, de mouvements de gymnastique, de respiration, et puis ensuite de méditation. Et dans les méditations taoïstes, il y a des méditations très simples, hein, tout simplement la contemplation intérieure, d'après les textes que j'ai traduits, ou bien des méditations plus complexes avec des visualisations, où on utilise l'image mentale pour essayer d'induire certains comportements ou de modifier ou de déjà de mieux connaître son corps et d'aider ce corps à devenir plus fluide en utilisant cette attention qui est primordiale dans tous ces exercices taoïstes. Donc ça, Narwazi l'enseignait. Il enseignait aussi la médecine parce qu'il considérait que un individu doit être capable de s'assumer lui-même et doit être capable de se soigner. Non pas de se soigner, mais d'arriver à faire, de ne pas tomber malade, c'est-à-dire, selon cet idéal aussi chinois, de prévoir la maladie avant qu'elle devienne matérielle. Toujours arriver, on remonte toujours aux origines avant que les choses ne se fige dans la matière. C'est ça qui est essentiel pour le taoïsme. Et puis, il enseignait ben, aussi le non-agir, une méditation qui est très proche d'ailleurs de la méditation Chan. Donc, laisser faire, chercher la nature intérieure, faire resplendir sa nature intérieure. Et les taoïstes disent oublier le moi. Donc, lâcher tout ce qui vient du moi, oublier. Mais cet oubli, évidemment, on ne peut pas le faire immédiatement. Donc il y a toute cette panoplie de méthodes qu'il préconisait. Et il a fait d'ailleurs aussi un séjour dans le Sichuan où il a rencontré des maîtres tibétains. Et il enseignait aussi trois, quatre méthodes de visualisation de divinité selon le bouddhisme tibétain.
Ouais. Alors vraiment,
donc
on
ça,
s'aperçoit.
Au fond, il nous laissait choisir, et puis il nous conduisait aussi plus ou moins selon le caractère de chacun. Moi, j'étais, quand je suis arrivée, j'étais plutôt d'une nature très timide, très renfermée. Il a fait en sorte que de me faire sortir de cet excès de règles que j'avais. S'il se trouvait devant quelqu'un qui, au contraire, faisait n'importe quoi, il lui donnait à ce moment-là des exercices très rigoureux, très stricts, avec une discipline très importante. Là aussi, pour essayer de trouver l'équilibre entre les deux et de trouver cette paix intérieure, au fond. Qu'est-ce qu'on veut tous? Qu'est-ce qu'on cherche tous? C'est quand même cette paix et faire que le corps soit en bonne santé.
Ouais.
Et moi, ce qui me navre, c'est que actuellement, les taoïstes disent que le corps est le pire de nos maux et qu'il faut s'en occuper, mais il n'en reste pas là. Et on s'en occupe, mais qui s'en occupe? C'est l'esprit. C'est ce cœur-esprit. Et si on fait des mouvements, si on fait des exercices yogiques sans travailler sur l'esprit ou sans comprendre que c'est l'esprit le plus important, alors on rate la cible.
Ouais. Et vous avez le sentiment que c'est un peu le cas en Occident, on privilégie
Absolument.
Soit un yoga, soit une méditation basée...
Le yoga, la méditation, tout ce que la plupart des pratiques que je vois sont devenues des pratiques de bien-être, des pratiques pour se satisfaire, pour s'amuser, pour prendre du temps à soi. Alors c'est important de retrouver ça parce qu'on l'avait perdu et Sénèque a écrit un petit livre, a écrit des textes très très jolis sur le fait qu'il faut prendre du temps pour soi.
Ouais.
Ça c'est fondamental. Mais pour soi et pas pour son corps.
Ouais.
À partir du moment où on s'identifie trop à son corps, eh bien, d'une part, on n'aura pas les résultats escomptés. Ça, c'est clair. C'est ce que disent les textes que j'ai traduits chez Payot Rivage. Là, c'est le calme de l'esprit, tout vient de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est le maître, c'est l'esprit. C'est grâce à l'esprit qu'on peut changer son corps, qu'on peut changer la matière. Ça, c'est une croyance, une conviction. Des Chinois de manière générale et en plus particulièrement des taoïstes.
Alors justement, donc j'y viens, ce livre de la contemplation intérieure que vous avez donc traduit et que vous avez préfacé et qui est paru chez Rivage Poche, il s'agit donc de trois textes anonymes écrits entre le 7e et le 13e siècle. On peut les qualifier de, je sais pas, de poèmes mystiques, de poèmes yogiques, il s'agit d'un traité d'alchimie intérieure, de quoi s'agit-il exactement?
Non, alors il y a trois textes un peu différents et le troisième est plus récent. On peut dire, ce sont des poèmes, des textes mnémotechniques qui donnent l'essentiel de, on pourrait dire, des signaux qui vont vous guider, des balises qui vont vous guider sur le chemin vers le Tao. Et ces balises-là sont réduites à l'essentiel et parlent beaucoup plus de l'esprit que justement de tout ce travail qui vise à réunir le corps et l'esprit. D'une manière générale, on fonctionne en ayant le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. L'important, c'est d'arriver à les réunir parce que quand, avec notre esprit, en temps ordinaire, on veut agir sur notre corps, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a eu justement cette séparation, cette disjonction entre les deux et qu'il faut retrouver un fonctionnement commun où les deux vont de pair et où les deux interagissent. Puisque ça, c'est aussi une conviction de la pensée chinoise, notamment dans la médecine. Les émotions sont associées à certains organes, donc le fonctionnement des organes va avoir une action sur notre psychisme et le psychisme va avoir une action sur notre physiologie.
Ouais.
Donc ça, on le perd progressivement et c'est ça qu'il faut retrouver. Pour le retrouver, donc il y a depuis l'apparition, on peut dire, du bouddhisme, du taoïsme religieux, c'est-à-dire depuis le deuxième siècle de notre ère, où il y a eu donc développement de toutes ces méthodes yogiques, mystiques, métaphysiques et autres. Les méthodes ont été très 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 diversifiée et vise toujours à cela, à faire en sorte que corps-esprit fonctionne de la même façon. Et progressivement, à partir du 8e, 9e siècle, on voit apparaître un système qui s'appelle l'alchimie intérieure, qui consiste à dire « notre corps, c'est comme l'athanor des alchimistes » et avec tous les ingrédients qui constituent une personne, c'est-à-dire le physique, le psychisme et l'esprit, nous allons faire de l'alchimie, c'est-à-dire nous allons arriver à transformer toute chose en faisant que les contraires s'unissent. Donc, qu'on puisse unir le corps et l'esprit, qu'on puisse unir le côté physique et le côté énergétique ou psychique, qu'on appelle le chi. Et ça, c'est donc le système d'alchimie intérieure qui est envisagé dans le troisième des textes que j'ai traduits, où en alchimie intérieure, on parle de trois ingrédients de base, qui sont le tin, donc l'essence de vie, le germe de vie, qui se traduit notamment dans la fonction génito-urinaire, donc qui est liée quelque part à la force de la sexualité, qui est une force importante. Il y a ensuite le chi, le souffle, donc le souffle externe et le souffle interne, l'énergie vitale, qui est le porteuse, qui est porteur de ce dynamisme de cette vie, et qui est enrichi par le germe de vie qui est à la fois la sexualité, mais aussi tout ce que nous tirons de la nourriture. Et puis il y a le shen, que moi j'ose appeler l'âme, hein, cette âme qui est liée à l'esprit, qui est donc une force encore plus subtile que le chi, mais là aussi, le chi, l'énergie vitale, porteuse de vie et l'âme doivent fonctionner de pair. Et dans cette alchimie, pour faire en sorte que le corps et l'esprit se rejoignent, on travaille beaucoup à la fois sur la respiration, sur la visualisation de tout ce qui bouge à l'intérieur du corps, et sur une force importante qu'on appelle en chinois le yi, qui est très difficile à traduire en français, parce que le yi, c'est une image mentale, c'est tout ce qui précède une activité. Vous allez marcher, vous voulez vous déplacer, vous avez d'abord le yi, l'idée que vous allez vous déplacer. Donc c'est ce premier mouvement d'esprit, si vous voulez, qui va permettre de changer les choses et de faire en sorte que l'on va influer sur le chi et sur le jin, c'est-à-dire sur le physique. Donc ça comprend des méthodes yogiques particulières, mais ces méthodes yogiques, elles n'amèneront à rien si il n'y a pas le travail le plus important, qui est le travail sur l'esprit ou le cœur-esprit. Si je parle de cœur-esprit, c'est parce que les Chinois ont logé cet esprit, ont associé cet esprit au cœur, à l'organe du cœur. C'est-à-dire que c'est cette partie du corps qui s'ouvre, quand l'esprit s'ouvre, quand le cœur s'ouvre, c'est à partir de là que l'on va laisser entrer la lumière du cosmos et que l'on va entrer dans l'infini. Quand on parle du cœur-esprit, c'est pas uniquement cet esprit conscient qui est propre à chacun, mais c'est cet esprit qui est partout, qui se trouve dans le temps, qui est presque l'égal du temps. C'est cet esprit que l'on doit trouver. Il faut se libérer de tous ces carcans que nous avons, donc le carcan du moi, le carcan du corps. Et là, on entre dans beaucoup plus dans la mystique et dans cette idée que là aussi, les paroles sont insuffisantes pour décrire ou pour témoigner de cette expérience mystique, cette fusion avec le temps, cette fusion avec le cœur-esprit qui est lumière. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Il y a quand même cette idée, même si il ne faut pas faire d'opposition entre l'ombre et la lumière, il y a quand même cette idée de purification, de luminosité, de légèreté qui amène quand même dans des sphères célestes sans qu'on quitte la Terre pour autant.
Oui, c'est-à-dire que le salut n'est pas au-delà, il est ici-bas, il faut le travailler, il faut le travailler finalement tout au long de sa vie, quoi. On vous écouterait vraiment pendant des heures, Catherine Despeu, mais on arrive au terme de cette émission. Peut-être accepterez-vous ultérieurement une autre interview, parce que il aurait été aussi intéressant de montrer à quel point le Tao a irrigué aussi tous les pans de la culture chinoise. Je pense notamment la peinture de paysage, mais aussi la poésie, les arts martiaux aussi, c'est intéressant. Je sais que vous pratiquez le Tai Chi Chuan, donc peut-être que si vous avez un peu de temps devant vous, eh bien, vous accepterez une seconde interview dans les semaines ou les mois à venir. Je voulais vous remercier infiniment et rappeler à nos auditeurs le titre du livre que vous venez de faire paraître chez Rivage Poche, le livre de la contemplation intérieure. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.